Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce documentaire en réécoute de La Fabrique de l'Histoire, nous vous proposons ce samedi matin de rejoindre un lieu disparu aujourd'hui, le lieu dit Le Poteau, à la limite des Landes et de la Gironde. Il fut un temps, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 60, où la France abritait sur son sol des bases américaines et des dépôts de munitions. L'un d'entre eux se situait sur la départementale 932, au lieu dit Le Poteau, entre Landes et Gironde. Aux lisières de ce camp s'installèrent, et durèrent bien après le départ des Américains, plusieurs bars et lieux de prostitution qui ne furent fermés qu'en 1987. Dès 1932, lieu dit Le Poteau déclandait au grand jour, un documentaire d'Olivier Chaumel et Renaud Dalmar, avec les témoignages d'André Duranteau, Jean-Pierre Duberne, Christian Vénetier, Huguette Walewski et Mieczysław Walewski, Hervé Ponce et Jérôme Verneau.
Et ça, c'est le cabanon, oui. Côté les Lignes. Lignes, c'était la sœur à...
Chantal.
À Chantal. Mmh.
Et c'était la mère à...
À Emmanuel. Le Poteau City, c'était chez Simone, ça. Le Welcome, c'était en face de le camp. Le Poker d'As, en face de le camp aussi. C'est celui qui est un peu au sud. Et après, il y avait le Saloum. Il n'y a plus rien. C'est démoli. La Grange. Je voulais nommer en descendant, hein, du nord au sud. Les Abeilles. C'est une Espagnole qui tenait ça, Dolores, je ne me rappelle pas le nom. Après, le Poteau City, le Bambi, et après, la maison qui existe encore, j'ai un trou du nom. Mais bon, ça a changé quand même. Après, regardez, si arrivait un nouvel tenancière ou tenancier, bon, il changeait de nom. Quand on voyait l'enseigne, on savait très bien où rentrer.
Welcome au Poteau. Olivier Chaumel, Renaud Dalmar. La route est bien droite entre Langon et Mont-de-Marsan. Le biotope est simplifié avec deux espèces végétales principales, la fougère et le pin maritime. Difficile d'identifier des repères dans le grand désert vert de la forêt landaise. À un endroit, toutefois, on longe une clôture barbelée qui n'est pas celle d'une réserve de gibier. C'est le centre d'essai des Landes, annexe de Capieux, qui propose aujourd'hui ses cibles aux supersoniques venus les bombarder. Le camp de Capieux, dit camp du Poteau, a été une base américaine très importante entre 1951 et 1967. Des petites maisons de passe s'étaient installées le long de la route qui borde le camp, en vertu du principe selon lequel, où il y a des soldats, il faut des filles. Elles sont restées 20 ans après le départ des Américains. Sans l'uniforme, peu de choses distinguent un GI d'un bûcheron landais. De nos jours, l'activité militaire est assez faible. Hors période de tir, des ornithologues prennent le relais des militaires et viennent compter les grues. Il y a une certaine permanence dans ce coin de Gascogne.
Américains, je vous dis ici, défendez l'Europe. Elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle.
Janvier 1951.
Je suis rentré d'Algérie en 58. Et donc j'ai connu les Américains étaient arrivés. Et c'était mon père qui faisait des tournées déjà et qui avait commencé à s'arrêter dans ces maisons closes. Hein. C'est surtout ça qui avait le long de la route, hein, qui était au nombre de quand même 9 ou 10 sur le territoire de la commune de la région, je crois. Et puis moi, bon, après j'ai pris la suite de mon père. Hein. Donc je passais deux fois par semaine. De toute façon, au niveau économique dans le coin, ça avait apporté quand même. Il y a pas que ça, il y a pas que les maisons closes. Il y a quand même 1200 personnes à un moment donné, civiles, qui travaillaient au camp américain, hein, avec ramassage de bus et depuis Bordeaux et dans la Gironde et partout. Hein. Toutes les munitions qui arrivaient par wagon, elles arrivaient en gare du Poteau. Et là, dans les wagons arrivaient là, donc c'est pour ça qu'il y avait tout ce monde, les camions américains, de la veille, depuis la gare du Poteau. Et ils rentraient au camp et allaient poser ça dans les dépôts, dans des silos, quoi, des protections de, ouais, en béton armé, et les munitions étaient stockées là-dedans. Quoi. C'est pour ça. Et après, plus tard, il a été créé la voie ferrée. Alors là, ils avaient créé une gare dans le camp. Je crois que le lieu-dit s'appelait Testemal. C'est un lieu-dit, c'est une ferme. Hein. C'est un endroit où se faisaient les foires, hein, des moutons et des béliers, surtout. Donc la gare des Américains, disons, était située à cette ferme-là.
Ça, c'est un des derniers documents que vous avez de l'armée américaine, alors, juin 66.
Je suis là, c'est un officier américain, et ce sont les officiers polonais qui dépendaient de moi.
Les forces américaines employaient beaucoup de Polonais venus les rejoindre à la fin de la guerre. En 1967, lorsqu'il s'est agi d'en finir avec la présence militaire américaine sur le sol français, beaucoup de ces Polonais sont restés en Aquitaine, tandis que les Américains retournaient à home. Jérôme Verneau a fait ce choix de s'établir à quelques kilomètres du camp.
Ici, c'est le colonel américain qui partait aux États-Unis. Je prononce un discours en anglais. C'est mon fils habillé en petit polonais d'une région de Pologne. Et il remet les fleurs à la épouse du colonel. Ça, c'est les MP polonais qui étaient à l'entrée du camp.
La police militaire.
Oui. Ce sont les Polonais qui servaient auprès de l'armée américaine pour le gardiennage du camp. C'était un terrain de 10 000 hectares. C'était le plus grand dépôt de munitions ici. La nuit, on faisait 150 kilomètres.
Mais c'est immense.
Il y avait des routes, beaucoup de routes. Et goudronnées d'ailleurs. Vous voyez, il y avait la guerre froide. Et en cas de guerre, ces munitions qui étaient ici servaient pour toutes les unités américaines en France et en Allemagne.
C'est la seule que je l'ai trouvée dans un vieil album. Moi, le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand les Américains sont arrivés, j'ai mangé ma première orange. Je ne savais pas ce que c'était.
Huguette a épousé Mieczysław Walewski quand ce dernier portait l'uniforme américain. Ils vivent aujourd'hui dans un bel et vaste aérial, tout ce qu'il y a de plus landais. Une clairière avec quelques chênes et une maison basse, entourée des pins.
Il n'y avait rien ici, rien.
C'était plutôt une période heureuse quand les Américains étaient là.
Ah oui, il n'y avait pas du chômage comme maintenant. Hein.
Chômage, non.
C'était des vingtaines de cars qui arrivaient de la Réole, de Langon, de Mont-de-Marsan, de partout, plein d'ouvriers qui venaient travailler.
Et ça consistait en quoi le travail du personnel civil dans le camp ?
Et au camp,
ils ont construit quand même le dépôt. Il y avait des employés du bâtiment qui venaient de Villandro, des maçons et tout ça, qui venaient manger le midi au restaurant où je travaillais, mais qui n'avait rien à voir avec les baraques qu'il y avait à côté, hein, où c'était les bouis-bouis. Et comme ça, ils aidaient, il y en a qui faisaient du jardinage, des ornements, quoi. et d'autres qui balayaient, d'autres qui pointaient.
Pourquoi nos uniformes américains, madame Zotti, sergente.
Votre mari, vous l'avez rencontré quand il était dans l'armée américaine.
Ah, ben je vais vous faire rire. Le jour où je l'ai rencontré, je l'ai foutu à la porte. Ah, j'ai dit, putain, celui-là, je veux pas le servir. Hein. Il est plein comme un Polonais, j'avais pas remarqué l'écusson. Parce qu'ils avaient des écussons sur leurs vêtements.
Sinon, c'était un uniforme américain. Il y avait
juste... Exactement la même couleur comme les Américains. Seulement, les Américains, ils avaient un écusson qui était différent quand même. Alors, le patron s'est foutu à rire quand j'ai dit ça. Il me dit, oh, Huguette, c'est peut-être avec celui-là que tu te marieras. J'ai dit, vous direz que je suis devenue folle. C'est ça que j'ai fait.
La direction de l'Office central des Forces armées nationales, au vu des preuves présentées, constate que M. Jérôme Verneau, pseudonyme Wrobel, né le 30 septembre 1925 à Kępno,
en Pologne,
a pris part dans la lutte contre l'occupant pendant la période de mars 41 à octobre 43 en tant que membre de la résistance dans l'organisation dite...
C'est difficile à prononcer pour vous. Związek Jastrzębski.
Une des questions que je me pose,
oui.
Jérôme Verneau, c'est pourquoi y a-t-il eu tant de Polonais parmi les forces américaines ?
Écoutez, la guerre terminée, je ne pouvais pas rentrer en Pologne puisque la Pologne était sous l'occupation russe, soviétique. Donc le gouvernement polonais communiste nous a retiré notre citoyenneté polonaise. Si je rentrais en Pologne, c'était la prison. Donc, je suis resté à l'Occident, d'abord en Allemagne, dans des brigades Święczuczka qui a rejoint l'armée américaine en Bavière. Je me suis dit, la guerre est terminée, j'ai passé mon bac en Allemagne, je vais me rendre en France pour continuer mes études. Bon, j'ai obtenu une bourse pour continuer mes études à Angers. Mais je ne pouvais pas continuer mes études puisque je suis tombé malade. Donc je suis revenu en Allemagne, rejoindre les unités de Brigada Święczuczka qui étaient au service de l'armée américaine pour gardiennage des bases américaines en Allemagne. Quand la guerre de Corée a éclaté, la France a admis, dans le cadre de l'OTAN, de former des bases américaines en France. C'était en 1951. La plupart des soldats américains rentrent aux États-Unis. Alors, ils nous ont employés en tant que des auxiliaires pour gardiennage de ces bases.
Mais vous étiez bel et bien militaire.
Paramilitaire. On avait des uniformes, on portait les armes, mais c'était des unités paramilitaires qui étaient au service de l'armée américaine. J'ai obtenu mon grade de sous-lieutenant à l'époque et je suis rentré en France en 1952. Et c'est ainsi que je suis venu à Capsier. Et depuis 1952, je suis là. Donc j'étais l'officier de liaison. Donc je servais de contact avec la population, les autorités françaises.
Parce que vous parliez à la fois l'anglais et le français.
Et l'anglais, français et polonais. Vers la fin, je suis devenu commandant de l'unité. Donc j'ai commandé les Polonais qui étaient ici au service des Américains pour le gardiennage du camp.
Guide pratique à l'usage des GIs en France, 1944-1945. Le niveau de vie français est inférieur au nôtre. Il en va de même des Polonais, des Russes, des Grecs, des Yougoslaves, des Chinois, des Mexicains, des Turcs, des Indiens et de la plupart des pays du monde. Le niveau d'hygiène s'élève à mesure que le niveau de vie monte. La France n'est pas aussi prospère que nous. Installer une plomberie moderne n'est pas bon marché.
Il y a tout un imaginaire qui va avec les Américains en Europe dans l'après-guerre. Enfin, je pense aux cigarettes blondes, aux voitures.
L'essence, le trafic d'essence.
Américain béni, moi ici aux maisons, ma carousine est là. Et brûler au poil.
On se chauffait pour rien, nous. Rien. Et le kérosène.
Pour tout ma 600 litres, là.
Huguette et Mieczysław Walewski.
Quand on en voulait, on leur disait.
Chauffeur français, là.
Oui, on le disait à une personne bien intentionnée qui disait « Oh, je viendrai tel jour t'emporter ». Et d'autres qui se sont construits de belles maisons avec ce qu'ils ont pu resquiller au camp du poteau.
Profiter, la France, là.
Il y en a qui en ont profité, hein. Avant, vous aviez Capcieux, tous ces garages, ça n'existait pas. C'était en planche, c'était une remise pour les ânes, les chevaux, les vaches quand il y avait des foires. Parce qu'il y avait des foires importantes sur Capcieux, à cause du bétail, des maquignons, tout ça. Il y avait de très belles foires. Et ils mettaient les matériaux là, les carrioles, les bestiaux. Et après, ça a été en dur, avec du matériel américain.
Mais tout ça, c'était détourné, ça se faisait clandestinement.
Ah, et ben oui.
J'imagine qu'il ne fallait pas se faire prendre.
Ah, ben il y avait des fouilles de carré.
Oui, oui. Oui.
Ah, il y avait des fouilles, hein.
Ah, ben, okay,
à la première sortie,
oui, oui.
Il laissait tout passer.
Mais possible,
parce qu'il savait qu'il y avait un contrôle à l'extérieur.
Mais c'était courant que la population profite de la présence des Américains,
ça, oui.
Que ce soit légal ou non, quoi. C'est ça.
Tout le monde n'était pas censé le savoir. Et des balais, des ampoules, ou des ampoules électriques. Mon Dieu, comme il y en a disparu. Et au magasin qu'ils avaient, qu'on appelait le PX, il y en a une d'ici qui travaillait, qui parlait bien l'anglais. Et elle le disait, oh, on a reçu ci, on a reçu ça. Alors, les gens s'en faisaient prendre.
Il y avait des gens qui étaient plus ou moins hostiles aux Américains, pour telle ou telle raison.
Il y en avait. À commencer par notre propriétaire à l'époque. On n'habitait pas ici. Lui, il disait, je peux pas voir tel peuple. Mais s'ils viennent en France, je ferai avec eux. Il y avait eu les Allemands. Il faisait avec les Allemands. Il y a eu les Américains, il a fait avec les Américains. Tout ça pour le pognon.
Guide pratique à l'usage des GIs en France, 1944-1945. Numéro 60. Chaque fois qu'une Française s'assoit, elle remonte sa robe ou sa jupe. N'essaie pas d'attirer votre attention vers ses genoux, mais simplement de retarder au maximum l'usure de ses vêtements, qui, du fait de leur ancienneté ou de leur mauvaise qualité, ne résisteront sans doute pas longtemps.
Vous vous souvenez de la présence américaine dans la région, André Durand ?
Oui. J'ai d'ailleurs un cousin qui est américain. Qui s'est marié avec ma cousine, qui était secrétaire, qui était rentrée dans les bureaux. Vous savez, quand ça tournait à bloc, là, il y avait beaucoup d'employés, il y avait 4 cars qui descendaient de Bordeaux, qui s'arrêtaient à Capcieux. Alors évidemment, c'était le matin à 7h30, à Capcieux, c'était un monde fou, il y avait l'effervescence, tout comme après, au retour, ils prenaient les ouvriers de Capcieux, ils les laissaient au retour, alors ça faisait vraiment une émulation extraordinaire, quoi, qui depuis, où on a accusé le coup. Et ça a été quelque chose de formidable, même je pense sur le plan commercial vis-à-vis des gens de Capcieux, quoi. Et puis ça a porté quand même, il y a beaucoup de gens qui ont été employés de la région, où il y avait des salaires qui étaient intéressants, un travail intéressant aussi. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui, surtout parmi les jeunes, regrettent que cette époque.
Comment étaient-ils accueillis les Américains ? Bon, en dehors du fait qu'ils amenaient des dollars et tout un folklore de l'après-guerre.
Bon, pas 100% très très bien accueillis, mais quand même, je pense qu'il y avait une bonne majorité de Français. Bon, ils étaient sympas. Bon, il y avait un truc, c'est que quand ils avaient bu un coup de trop, notamment il y avait un petit une guinguette à capsieux qui s'appelait la Caravelle, où il y avait des balles tous les dimanches soirs. Et alors évidemment l'équipe de rugby ont gagné, on avait un petit peu fait l'apéro, c'était un peu chaud, il y a eu des bagarres, mais automatiquement la militaire police arrivait, elle mettait de l'ordre, et puis voilà quoi. Puis il y avait aussi en même temps des Polonais, alors il est certain que quand c'était la boisson qui faisait parler, il y a eu quelques petites bagarres, mais sans très grosses conséquences quoi.
Ambiance de western un peu,
oui,
par moment.
Exactement, oui. C'était, ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça bagarrait. Et puis, quand la militaire police arrivait, ils prenaient les gars qui avaient trop bu, ils les ramenaient au camp, ils étaient punis, et puis voilà.
Toutes ces maisons se sont bâties là, le long de la route.
Jean-Pierre Duberne.
Et c'était une bande de terrain qui appartenait à un même propriétaire, qui a eu le privilège d'avoir, parce que là, bon, c'était... Et il louait, les gars faisaient bâtir ses maisons, et ils payaient un loyer. C'était des bois, le long de la route, et je dis, la première à s'est bâtie, je ne me rappelle pas quelle année. C'était...
Tout ça du
temps
des Américains.
Oui, du temps des Américains, mais au début...
Numéro 55. Les Françaises sont des filles faciles. Les Françaises faciles sont celles qui se laissent séduire facilement. Mais il est aussi ridicule d'en déduire un principe général concernant les Françaises qu'il est absurde de faire des filles à soldats des villes de garnison américaines un archétype de la femme américaine.
Le seul café qui existait, c'était la maison qui a brûlé, à la limite du département. Et c'était un gars de région qui tenait ça, c'était un café-restaurant. D'ailleurs, si ça avait été, enfin, entre nous, si ça avait été bien géré, il aurait dû faire une fortune colossale. Parce que c'était le seul. Alors, vous vous rendez compte, il faisait je ne sais pas combien de centaines de repas par jour. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de cantine dans le terrain militaire. Hein. Dans les Américains, les premières années, ils n'étaient pas... Et là, c'était le bon accueil qui s'appelait. Si ça avait été bien géré par le couple, ils auraient gagné un argent fou. Mais bon, c'était un restaurant, il n'y avait pas de filles.
Ce qu'on dit, c'est que là où il y a des soldats, il y a des filles.
Voilà. Hein,
on peut expliquer l'apparition de ces baraques le long de la départementale de cette façon.
Voilà, oui, ben c'était l'apport. Bon, je ne sais pas comment ils étaient, là, d'Américains et de Polonais, mais bon, vous savez, il y a de l'armée. Bon. Donc les filles, elles sont venues comme ça. Hein. Et alors, dans les fins de mois, elles étaient 7-8 par maison. Hein. Mais là, elles venaient, bon, ça durait... parce que quand ils avaient touché la paye, alors là, c'était la grande bamboula, hein, c'était la fiesta. Alors. Et après, elles repartaient. Mais enfin, il y en avait tout qui était là, demeure quand même, 2, 3, 4 par maison. Hein. Mais pour toutes les fins de mois, elles étaient là une dizaine. Hein. Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do.
Numéro 57. Que pensent les Français de toutes ces prostituées? Comment peuvent-ils fermer les yeux sur toute cette immoralité? Non, ils ne ferment pas les yeux. C'est la première différence entre les Français et les Américains quant au problème de la prostitution. Les Français reconnaissent que cette dernière existe et la réglementent. Les Français considèrent qu'en légalisant la prostitution, ils protègent la santé publique et qu'en la restreignant, ils évitent que des femmes respectables soient molestées. Parallèlement, les Français considèrent que les GIs ont une manière choquante de parler aux personnes du sexe faible et que beaucoup trop de femmes respectables ont connu des expériences déplaisantes avec des soldats américains ivres ou soi-disant amoureux.
Oh, il y en a une fois, elle s'appelait Pierrette. Oh, qu'est-ce qu'on a pleuré. Les gendarmes de Roquefort l'ont arrêtée. Elle les a traités de tout, mais de tout. Il fallait quand même qu'elle soit costaud, et les mômes. Vous êtes des salauds, vous me laissez pas faire mon travail. Et elle venait avec le car et elle repartait avec le car. Et il y en a une, la Marlène, elle venait de Pau. Elle était donc vilaine, mais tous la voulaient, celle-là. Oh, mon Dieu! Elle était vilaine, mais grande.
Pas la noire, non.
Et lancée, non. Mais la Pierrette, là, de Roquefort, elle a traité de tout, les gendarmes. Vous m'avez pas laissé finir mon 45e à 10h du matin. Je sais pas s'il y avait de la drogue déjà à l'époque ou quoi, parce qu'il fallait tenir le coup quand même.
Oui, là-bas, beaucoup la drogue toujours.
Mais elle s'en faisait, hein, du pognon. Ouais. Oh, la Marlène, elle disait, bon, ben ça va. Elle venait les jours où il y avait la paye, ou le lendemain. Ça se passait beaucoup le week-end. Et bien, elle disait, ça y est, j'ai un mois de plus aujourd'hui.
Oui.
Surtout avec les Américains.
Ben, oui. C'était mélangé, hein. Blanc, noir, c'était polonais, c'était... Ah, mais enfin, les Polonais, ils payaient moins, hein, quand même.
Polonais. Ça a dynamisé l'économie de cette région.
Bien sûr.
Mais ça a aussi apporté... peut-être pas des nuisances, mais enfin, les soldats sont ce qu'ils sont, et quelquefois ils sont plus ou moins disciplinés. En tout cas,
il y avait des histoires, oui. Ici, tout le long de la route qu'on appelait Poton, il y avait des baraques avec des filles.
C'était des bordels.
Voilà, qu'on appelle, oui. Alors les soldats, quelquefois, quand ils étaient sous, il y avait des bagarres. Alors je servais d'interprète aussi.
Entre les gendarmes français et...
Oui, le procureur, quelquefois, même, il est venu, oui. Entre les soldats polonais, américains, et même de la base de Mont-de-Marsan, il y avait les parachutistes, il y avait l'armée de l'air. Ils venaient ici aussi, voir les filles. C'était un petit Pigalle ici. En dehors du service.
Les baraques le long de la route au poteau se sont installées pour satisfaire une clientèle américaine au départ.
Et voilà.
Mais elles sont restées après que les Américains sont partis.
Un certain temps, oui. Alors après leur départ, c'est les jeunes de la région qui venaient voir les filles et les soldats de la base de Mont-de-Marsan.
Et après, les gens, bon, les gens du couvert, des 32, des 47, mais les gens, le poteau, c'était connu de loin, le poteau. Les gens ne connaissaient pas, mais le poteau, moi, je me rappelle, on racontait une anecdote, pour un match à Paris, des 5 Nations, un tournoi des 5 Nations, à Colombes, je vous parle, c'était il y a longtemps de ça, et on était avec des gars, et on s'est retrouvés en parlant, comme ça, et on parlait aux gens et tout, et puis du poteau. Le poteau, ah ben on connaît, vous voyez. Pour vous dire, Radjon, il ne connaissait pas, mais le poteau, il connaissait. Non, mais c'était le point de chute de beaucoup, des équipes de rugby, des retours de banquet, des machins.
Faire des puces un drôle était l'un des jeux préférés des gars de mon village, qui étaient en terminale au lycée ou en première année de fac. Ils se cotisaient pour réunir les 25 francs de la passe, ils s'entassaient dans une 403 et mettaient le cap sur Capsieux. Mon tour est venu en 1963. J'avais 13 ans et demi et je jouais au rugby. C'était un après-midi d'été. Nous sommes allés à l'aventure où nous avons pris un pot. Au bar, il y avait 4 ou 5 filles, dont une belle brunasse qui lisait Ciné Revue. Je ne me rappelle plus son prénom, mais je suis sûr qu'il finissait par un A. C'était la plus célèbre du poteau, un sacré morceau, et une gagneuse exceptionnelle. Si je me souviens, c'était Erika. Je suis monté avec elle, ou plus exactement, nous nous sommes rendus dans l'un des 8 cagibis en bois qui de plein pied prolongeait le bar. Avant, elle m'a offert un bonbon. Je me souviens qu'elle était très gentille. Nous y allions les soirs d'entraînement du rugby. J'y faisais également des escapades avec un boucher. Lorsque dans la journée, il avait blousé un paysan de 30 sacs sur un veau, il en dépensait 100 le soir au poteau. Mais c'est quand même avec les ricains que les filles faisaient les meilleures affaires. Elles les plumaient sans vergogne. Le matin, les femmes de ménage balayaient des dollars sous les tables et sous les tabourets de bar. C'était le bon temps pour tout le monde.
Mais il faut dire que quand les Américains étaient là, au point de vue économique à Capsieux, les filles avaient beaucoup plus d'argent avec les soldats américains ou polonais qu'avec les Français.
André Duranteau.
Elles ne pouvaient pas appliquer, je suppose, le même tarif, ou alors j'en sais rien. Mais enfin, l'argent, moi je sais qu'en tant que commerçant, dès que les Américains ont quitté la France, ça a été ressenti au point de vue sur le plan économique, hein, même les coiffeuses, même les bouchers. Bon, j'avais un commerce de chaussures et d'articles de sport, j'avais à Capsieux, et j'avais également un magasin en Roquefort. J'avais un bon marsan aussi, j'en avais ailleurs, mais enfin, c'était à proximité de ces petites baraques qui se sont constituées, parce qu'il est certain que, on appelait ça Capsieux by Night. C'était vraiment la soirée où le soir entre 10h et minuit, il y avait beaucoup plus de monde au poteau que vraiment, c'était Poteau City. Bon, on avait baptisé ça comme ça.
Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Que l'alcool, c'est pas bon pour le foie.
Et alors, c'est vrai que ces petites baraques, elles ont vraiment marché. Et vous savez que même les grandes équipes de rugby, le jour où le Lourdes ou Pau ou d'autres équipes du coin passaient dans le coin, ils s'arrêtaient tous au poteau.
Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent groggy et nous rend tous cinglés.
Alors moi, à l'époque, j'étais président du rugby. En plus, j'étais commerçant, bon, j'étais au conseil municipal, et j'avais la priorité avec, en plus, toutes les personnes, les tenancières de bar qui étaient mes clientes, parce que je faisais travailler notamment la région, surtout les bouchers travaillaient beaucoup, les coiffeuses, les boulangers, et évidemment, moi, en tant que chaussure, j'avais pas mal d'éclaboussures. Du fait que j'avais un magasin à Roquefort et à Capsieux, j'étais entre les deux, elles venaient chez moi, et bon, je les connaissais, même il m'était arrivé de faire du crédit. Et lorsque je leur disais, bon, dimanche, si on gagne, on peut venir. Bon, ben, à minuit, normalement, c'était la fermeture, il n'y avait plus de clients. Ben, elles nous recevaient, nous allions boire le champagne là-bas avec l'équipe quand on avait gagné. Bon, et puis, ceux qui voulaient se distraire, ils se distraient.
La vie, mais c'est bon des aimer.
Dès que les Américains sont partis, alors il restait évidemment, il y avait moins de choix aussi, parce que quand c'était la grasse époque, il y avait tous les mois un renouvellement, et puis il y avait des personnes un petit peu de tous les pays, africains, tout ça, et il y avait vraiment de beaux sujets.
Mais j'y ai pris goût vite un whisky, mon gars. Une blonde à mes lèvres et l'autre dans mes bras. Cigarette et whisky et petit pépé nous laisse groggy et nous rend tous cinglés.
Quel genre de fille c'était, Jean-Pierre Dumère? Bon, okay. Je vous demande ça à vous parce que vous aviez des raisons d'y aller qui n'étaient pas seulement pour, enfin, qui n'étaient pas forcément pour consommer le commerce local, puisque vous alliez régulièrement livrer de l'alimentation.
Oui, moi j'ai passé deux fois par semaine. Bon, la chef d'établissement, bon, prenait les affaires pour la consommation, bon, parce que les filles, il fallait nourrir quand même. Elles étaient nourries là-dedans. Mais quand même, ces demoiselles, ces dames, m'achetaient des produits aussi, que ce soit des shampoings, des laques, des vernis à ongles, du déodorant, et tout de la suite. Hein. Mais c'était des filles qui venaient de Bordeaux, hein. Il y en avait de Paris qui descendaient aussi. Hein. Surtout les filles qui venaient pour les fins de mois, voyez, pour la semaine, disons, de turbulence, là, quand les Polonais et les Américains avaient touché leur paye. Bon, après, ils dépensaient. Mais c'était des filles qui venaient de Paris et de Bordeaux qui descendaient. Et d'autres qui sont restées là des années. Hein. Ça a changé de... Ils ont de crèmerie, quoi.
Mardi 8 mars, 4 Top Inter, il est exactement 8 heures. France Inter, André Lemas, Interactualité.
La Maison Blanche étudie le message que le général de Gaulle a fait transmettre au président Johnson par l'intermédiaire de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Et Jean-Pierre Elkabbach, les Américains s'attendaient à recevoir des propositions de la France pour réformer l'OTAN, mais ils ne cachent pas leur irritation de les recevoir si tôt.
Le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du 21 février, avait expliqué qu'il s'agissait de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de mer, de ciel, de force, et tous éléments étrangers qui se retrouveraient en France ne relèveraient plus que des autorités françaises. La France veut donc tenir compte de l'évolution internationale et il s'agit donc de réviser le statut des 26 000 soldats américains, des 14 bases aériennes, d'une quarantaine de bases, de dépôts et de cantonnements entretenus en France par les États-Unis.
KLIF presents the world's greatest disc jockey, Ross Knight.
Oh boy.
Isn't that awful?
Vers la fin, nous étions payés en dollars.
Jérôme Vernon.
Le salaire, ça représentait pour un soldat que j'ai commandé, à peu près, il était au niveau d'un ouvrier qualifié français à l'époque. Mais il y avait beaucoup de facilités, puisqu'il y avait des magasins américains qui étaient détaxés. Alors, la nourriture, tout ça, on pouvait acheter à des prix très intéressants. Les voitures qu'on pouvait acheter sans payer les taxes. J'avais une immatriculation spéciale de l'armée américaine. Les Américains étaient partis. Il fallait payer la taxe TVA pour obtenir immatriculation française.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez beaucoup perdu à l'éviction des Américains.
Oui, oui. Bien sûr, puisque j'avais une belle situation que j'ai perdue.
À Roquencourt hier, les drapeaux des 15 pays membres de l'Alliance Atlantique ont été amenés, puis remis à des officiers représentant les 15 nations. C'était la dernière manifestation, la cérémonie d'adieu, marquant le départ du CHEP, c'est-à-dire du quartier général des forces de l'OTAN, transféré aujourd'hui de la région parisienne en Belgique. Nos confrères de la presse écrite publient ce matin la photo des soldats américains en train de plier les drapeaux.
Le 28 août 1967, les troupes américaines ont fini de débarrasser leurs 100 000 tonnes d'explosifs et abandonnent définitivement le camp du poteau à l'armée française.
Au revoir, c'est à une fraternité d'armes sans laquelle notre pays n'existerait plus aujourd'hui.
Les journaux de province sont...
Je crois que le déménagement s'est fait assez vite.
Dans quelques mois. Mais les Américains ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Les munitions sont parties en Allemagne, en Italie, ils ont tout liquidé.
Ils n'ont rien laissé.
Ils n'ont rien laissé.
Finalement, Jérôme Vernon, de nos jours, la principale raison pour laquelle le camp du poteau est célèbre, c'est les petites maisons de prostitution qui jalonnaient la route.
Oui.
L'activité militaire, elle est un peu annexe. Qu'est-ce qui reste maintenant ?
Je crois que Mont-de-Marsan et les préfets, ça, ils l'ont toléré ça, puisqu'ils étaient tranquilles à Mont-de-Marsan. Les soldats français, il valait mieux les avoir ici qu'en ville. C'est pour ça, peut-être, ça durait si longtemps, et puis finalement, il y avait de la drogue, de tout, et puis...
Oui, parce que tout ça était très illégal, finalement.
Ah, bien sûr. La drogue, c'est illégal, oui.
Et le proxénétisme aussi.
Ah oui.
Et les maisons closes.
Ah oui, mais c'était pas... Oui.
Hervé Ponce est journaliste à Sud-Ouest. En 1987, il travaillait à l'agence de Mont-de-Marsan du journal bordelais. Chaque fois qu'il se rendait au siège, il passait devant les baraques du poteau et n'ignoraient évidemment rien de leur fonction.
C'est un lieu qui était très étrange, des cabanes en bois, construites comme des saloons, et c'était assez étonnant entre ça et l'Inde quand même. Et alors peu à peu, donc moi dans les années où j'ai connu le lieu, ils étaient dans un état de décrépitude avancé, parce que des baraques en bois, 20 ans après, ou 30 ans, ça avait mal tenu le choc, donc ça ressemblait plus à grand-chose, ça ressemblait plutôt à des bidonvilles. Intérieurement, Ça ressemblait au cliché du genre. C'est-à-dire qu'ils jouaient à fond sur l'éclairage, puisque ce n'était pas toujours très présentable l'architecture. Donc il y avait des lumières bien sûr tamisées, c'était des lumières rouges comme des codes. Il y avait pas mal de coussins partout, ça ressemblait à... Pour moi, ça évoquait les images de Toulouse-Lautrec ou les choses comme ça. Quoi.
Le bordel d'antan
qui reproduisait. Je pense que c'était... Bon, c'était un concept architectural.
Et commercial.
Il y avait des gens, j'en suis sûr, qui venaient de Bordeaux la nuit, parce que c'était quand même un endroit discret. C'était un endroit chaleureux, on peut le dire, pour le client. C'était quelque chose de... Bon, ben, ça n'avait pas le côté glauque des quais ou de la prostitution sous un réverbère. Il y avait, voilà, on rentrait là-dedans. Et bon, alors je ne dis pas pour ça que c'était mieux, parce qu'apparemment, les filles qui bossaient étaient quand même parfois maltraitées. À l'époque, il avait été dit que les papiers leur étaient retirés quand elles rentraient là-dedans. Donc elles ne disposaient plus beaucoup d'autonomie. Qu'elles n'avaient aucun gîte, aucun couvert ni rien. Donc comme c'était quand même des gamines qui avaient juste 18 ans. Donc elles restaient là parce que c'était là où elles étaient le plus en sécurité. Parce que s'il y avait un client qui était un peu énervé ou je sais pas quoi, il y avait quand même un service d'ordre interne qui faisait que ça se calmait très vite, quoi. Parce qu'il y avait quand même les Macs avec les Mercedes derrière, tout ça, et ils faisaient fonctionner leur petit commerce, ou leur gros commerce, parce que c'était quand même des grosses sommes d'argent qui transitaient. Et bon, c'était un endroit, malgré tout, où il y avait des règles.
Moi, je veux dire que les responsables des baraques, bon, c'était des commerçants qui venaient chez moi. J'étais très copain avec eux. Ils étaient même très sympathiques parce que quand on gagnait, ils me connaissaient bien. Ils me disaient, monsieur Duranto, on offre la tournée. Ils sortaient la main dans la poche, paquet de billets. Et bon, c'était sympathique. Quoi. Moi, je veux dire, je n'ai jamais eu avec eux aucune animosité, ni même dans le commerce que j'ai eu. Bon, ils m'ont toujours payé. Des fois, ça faisait attendre. Mais j'ai toujours été payé. Voilà. Alors, il est certain que quand il y avait les Américains, le camp complet, même nos femmes de chez nous disaient, bon, c'est pour les Américains. Mais après, évidemment, elles se rendaient compte qu'il y avait quelques éclaboussures, quelques personnes qui s'échappaient, elles craignaient un peu. Mais le jour où les Américains sont vraiment partis, elles étaient beaucoup plus inquiètes parce que les racontars vont vite dans le petit patelin de Capsieux et on disait « Ouh, mais il n'y a plus que des Français, il y a des 47, il y a des 32, il y a des 30, il y a des 31, il y a des 33 ». Alors évidemment, quand on disait « Bon, on sort, si on gagnait », alors il y en a qui nous pistaient, elles se disaient « Bon, à tous les coups, on va au poteau ». Et il y avait une crainte, quoi, une appréhension, bon, et puis c'était justifié. Voilà, exactement. Alors là, les femmes de chez nous, la population était en majorité pour dire il faut les fermer, c'est fini, les Américains sont partis, elles n'ont plus rien à foutre.
Les gens se ruinaient assez volontiers dans ces baraques-là.
Ah oui. À la fin du camp, je me rappelle, il y avait une histoire avec un pépé. Et le pépé, il trouvait des filles qui lui faisaient du bien, sa femme ne voulait plus rien lui faire. Ça avait paru sur les journaux, mais ça avait été au tribunal parce qu'il y avait foutu tout l'argent qu'il avait dans la maison. C'était rigolo et triste en même temps.
Les gendarmes, ils savaient très bien ce qui s'est passé là-dedans. Même moi, j'ai vu la PJ de Bois, la police judiciaire de Bordeaux, qui venait faire des contrôles. Ben, ils savaient très bien que les filles, elles n'étaient pas là pour passer la serpillière. Hein. Ils savaient bien que ce qui se passait. Et ça durait quand même, disons, 25 ans à plein régime, ça tournait. Là. Mais il y avait des fermetures. C'est une fille qui était prise en passe, bon, un mois de fermeture. Enfin, bon, ils travaillaient quand même. Même les gendarmes, ils passaient. Enfin, il y avait des sanctions quand même.
Mars 1987.
Donc c'était dans la nuit, moi j'étais donc journaliste à Jean de Marsan.
Hervé Ponce.
Il y a un collègue de Bordeaux qui me dit, dis donc, il y a les CRS là qui sortent pas mal de camions, là ils prennent la direction du sud. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je dis, il se passe rien chez moi. Il me dit, Bayonne, on va voir, j'appelle l'agence de Bayonne, voir s'il n'y a pas les Basques qui remuent ou quoi que ce soit. Enfin, on ne sait pas, enfin, on ne savait rien, quoi. Dans l'autre sens, il y a les collègues de Bayonne qui appellent Bordeaux en disant, nous, on a une montée de garde mobile vers Bordeaux, qu'est-ce que vous avez à Bordeaux? On n'a pas mis longtemps à comprendre. On dit entre Bordeaux et Bayonne, il y a le poteau. Donc j'étais à l'agence avec un collègue photographe. Aussitôt, j'ai dit Eureka, j'ai compris. On saute dans la bagnole. Et on est arrivé au poteau avant les deux colonnes de CRS et de garde mobile. Et quasiment en même temps que le juge Christian Vénétier, le procureur qui s'appelait Gérard Hilbert. Et Vénétier, donc j'arrive quasiment en même temps que lui. Et il me dit tiens, vous êtes là, vous? Je dis ouais, il y a eu des fuites quelque part, ça l'a agacé. Donc on était aux premières loges. Et alors là, je ne sais plus les chiffres, mais c'était au total, il y avait à mon avis 150 personnes à peu près, les forces de l'ordre, qui ont tout bouclé. Ils se méfiaient un peu parce qu'ils savaient qu'il y avait des armes, donc qu'il n'y avait pas des coups de feu tirés quand même. Donc c'était une grosse opération de police. Qui s'est faite très très calmement, sans aucun incident. Les prostituées et les proxénètes sont montés dans les cars des CRS tranquillement, à la limite certains rigolant avec les CRS en disant bon allez c'est fini tout ça. Bon, il y a eu, c'était relativement détendu. On pensait que ça allait être chaud quand même. Les gens montaient à la queue leu-leu dans les bus, s'assiedaient, et puis voilà, on allait tranquillement à Mont-de-Marsan, et puis voilà, l'affaire était finie.
Bonjour Christian Ventier.
Bonjour.
J'aimerais avec vous évoquer l'épilogue de l'histoire du camp du Poteau, parce que vous avez été un témoin actif de la fin de cette histoire. Vous étiez juge d'instruction à Mont-de-Marsan en 87, et le jeudi 12 mars 1987, vous avez participé à une très grande opération de police.
C'était une opération de police judiciaire, certes de grande ampleur, un peu plus importante que celle qu'on a l'habitude de mener tous les jours. J'étais plus qu'un témoin, puisque je dirigeais les opérations de police judiciaire qui avaient lieu cette fois-ci et qui étaient diligentées sur commission rogatoire de ma part par les policiers du CRPJ de Bordeaux. C'était en réalité les opérations de perquisition qui ont eu lieu dans les établissements des débits de boissons, en réalité. C'était comme ça que juridiquement, ils étaient qualifiables, posés le long de cette route sur une zone qui faisait de mémoire quelques kilomètres de long, près d'un ancien camp militaire américain et une ancienne base américaine qui se trouvait là, dans ce désert de pins de la forêt landaise.
Vous saviez ce que vous alliez trouver, Christian Ventier?
De fait, nous avons trouvé ce jour-là pas grand-chose, sinon quelques clients en train de consommer, si je puis m'exprimer ainsi, et puis des établissements dans lesquels il y avait des prostituées ainsi que des tenanciers d'établissements, rien de bien particulier.
Comment ça s'appelle en termes juridiques le délit qui consiste à tenir une maison close ou à en retirer du profit depuis 1946?
Ça s'appelle du proxénétisme aggravé.
Une question que je me posais, Christian Ventier, comment se fait-il que cet endroit où on organisait la prostitution de manière aussi notoire n'ait vu ses activités interrompues qu'en 1987?
Je crois qu'il est tout à fait faux de dire qu'il ne s'est jamais rien fait contre ces établissements. Très régulièrement, les tenanciers de ces établissements étaient condamnés et les établissements étaient même fermés administrativement puis judiciairement. Et ça, de façon tout à fait régulière. Mais simplement, comme il ne s'agissait que de poursuites ponctuelles, rien n'empêchait, après fermeture, un tiers de racheter le fonds de commerce, de racheter sa licence, le débit de boisson, et d'ouvrir à nouveau l'établissement.
On dirait que ça clôt une partie de l'histoire, cette opération d'éradication des maisons closes.
Il me semble que les audiences publiques ont montré qu'il existait derrière ces façades d'établissements, en apparence un peu surannée, avec des lampions, dont les acteurs locaux véhiculaient volontiers une image associée à un folklore local, associée à une troisième mi-temps de rugby. Je me souviens qu'on a même écrit à l'époque que la justice allait saper ou était en train de saper l'économie locale. Bon, je crois que les procès publics ont démontré qu'il y avait derrière ces façades et le folklore local dont on les affublait de véritables filières internationales de criminalité organisée.
J'ai été sidéré à l'époque de pouvoir recueillir très très facilement des témoignages de consommateurs.
Hervé Ponce.
Des petits papis, enfin, qui étaient peut-être des petits papis pour moi, il y avait peut-être qu'une soixantaine d'années, hein, mais qui racontaient, ben voilà, on allait là-bas, c'était sympa, il y a une nouvelle qui est arrivée, elle est mignonne, je vous la recommande. Enfin, et puis rigoler, c'était, ben voilà, on va à la Palombière, on va au Champignon, on va au Poteau. Voilà, c'était comme ça. Je me souviens avoir fait la photo d'un monsieur qui montrait une porte avec les scellés de la police et qui disait, regardez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Il montrait les scellés en se lamentant, comme si on avait fermé, je sais pas quoi, moi, un hôpital, une école ou une...
Ou un grand musée.
Ou un grand musée, enfin, c'était inouï.
Jeudi soir, la tradition des banquets pour noces d'un soir et repos du guerrier au poteau a pris un méchant coup dans l'aile. La troisième mi-temps du rugby également. Où iront-ils maintenant? Chez nous, chaque fois qu'un jeuneau disputait son premier match en première, les autres se cotisaient pour lui payer une fille et tout le monde l'accompagnait, regrettent les anciens de Roquefort. Combien de gamins de Capcieux, de Grignoles, de Bazas et de beaucoup plus loin, rugbymen ou non, ont connu ici leur premier grand émoi? Combien de chauffeurs routiers, de représentants y ont déjoué les pièges de la somnolence au volant? Certes, l'endroit n'avait pas bonne réputation. La rumeur y croissait aussi naturellement que les pins. On parlait volontiers de traite des femmes, de nanas récalcitrantes que l'on plaçait sous haute surveillance, en pénitence pour une mise au pas quasi militaire, de gagneuses fatiguées que l'on envoyait au vert, de devises, d'herbes et de poudre qui circulaient sous le jupon, de gros gibiers qui se planquaient. Néanmoins, l'on continuait à aller et à s'arrêter au poteau. Jeudi soir, l'étape a été rayée de la géographie galante du sud-ouest. La tournée de l'épicier de Red Jones et des grossistes de la région n'y passera plus. Resteront les ricains en souvenir. Pour les drôles de Grignoles, qui avaient 20 ans en 1970, et qui hier encore revenaient sur les lieux du premier baiser payé, avec de la rosée plein les yeux, la Java du poteau, c'est bien fini. Jean-François Mézergue, Sud-Ouest, 15 mars 1987.
Et finalement, vous avez de la nostalgie pour cette période-là où ce folklore-là existait?
Oh, de la nostalgie, non. Bon, mais je dis, moi j'en ai profité parce que bon, ça m'a fait gagner de l'argent, hein. Petite épicerie ici à Red Jones, vous savez, même en faisant les tournées, ça a amélioré les chiffres d'affaires. Hein. Moi, les filles, elles ne me gênaient pas. Hein. Ni ce qui s'y passait non plus. Hein. Moi, pourvu que je vende de la marchandise, et j'ai pas perdu d'argent dans ce secteur. Hein. Ça payait cash.
C'était Welcome au poteau. Avec Jean-Pierre Duberne, André Duranteau, Hervé Ponce, journaliste à Sud-Ouest, Christian Ventier, vice-procureur de la République, Huguette et Mieczysław Walewski, Jérôme Verneau. Guide du GI lu par Thierry Beauchamp, coupure du journal Sud-Ouest lu par Laurent Lederer, remerciements à Sandrine Béthune, Philippe Petit, Pierre Coquerel-Stemmer, Jean-Pierre Sandrané. Archives Sud-Ouest, Anne-Sophie Marquetteau. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Renaud Dalmar.
Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres de France Culture mais aussi de la Fabrique de l'Histoire sur le site internet de France Culture www.franceculture.fr. À 9h07, vous retrouverez Réplique d'Alain Finkielkraut et dans quelques instants, le journal de la rédaction.